Parlons d'abord d'Universitas, Pierre-Yves.
Oui, un représentant universitaire, un ancien représentant universitaire qui allait dans les places avec beaucoup d'immigrants, de nouveaux arrivants, et des gens sur l'assistance sociale, et tentait de les recruter pour leur faire signer des régimes enregistrés d'épargne études. Bien que ce soit un bon produit de prendre un régime enregistré d'épargne études en moyenne, ce représentant-là ne tenait pas en compte de la capacité de payer des clients, ne tenait pas en compte du bien du client. T'sais, avant de couvrir ton bien des études universitaires de tes enfants, tu mets de la bouffe sur la table. Donc, ça, c'est un comportement qui était un peu bizarre. Ça va être à la facture ce soir. Mais Paul, il y a une question de rémunération là-dedans. Quand une personne est rémunérée en fonction de la commission et du volume de vente, elle a un incitatif. Donc, à HEC Montréal, on enseigne ça. Hein? Si vous voulez augmenter les ventes, donner des bénéfices ou des bonnies ou des primes à la performance sur le volume. Mais évidemment, dans ce cas-ci, le problème, c'est que comme c'est un produit financier pour aider les gens, il faut que la personne qui vend le produit ait à cœur aussi quoi? La capacité de payer des gens et leurs intérêts et comprendre les objectifs du client. C'est à même le conseil financier, c'est une réglementation de base. Donc ici, ce n'est pas Universitas qui est à blâmer, mais plus un individu dans cette entreprise-là qui utilisait c'est un avantage disons de moralité ou plutôt de d'apparence de connaissance pour évidemment encourager des gens à acheter des placements dont ils n'avaient pas besoin.
On va parler de Apple qui a atteint une sorte de point de bascule, le mur de la demande.
Oui, parce que là, tu sais, Paul, je sais pas si tu as vu le prix des derniers cellulaires, le iPhone 10 ou X, on parle de le modèle gros, là, on parle de 1 700 $ canadiens et plus pour un téléphone. Donc, évidemment, Apple est en croissance, sa locomotive, c'est le cellulaire, donc le téléphone intelligent. Mais le problème, c'est que ton client moyen qui te l'achète, à 1 700 $, il se dit, attends une minute, là, pour ce prix-là, je peux m'acheter un téléphone cellulaire, une tablette et un ordinateur portable toute la famille.
T'sais. C'est vrai.
Donc, de base, ben oui, tu sais, mettons, une tablette à 200-300 $, un ordinateur portable à 600-700, puis un autre cellulaire pour le même prix. Donc, la question, est-ce qu'on n'atteint pas, à un moment donné, la limite du client à renouveler son cellulaire? Et quand on regarde les états financiers d'Apple, on comprend que le cellulaire, c'est ce qui amène toute la valeur chez Apple. Donc, en volume, c'est la locomotive. Écoute, pour un trimestre, le quatrième trimestre, 2017, pour 53 milliards de revenus, t'en avais 29 qui venaient des iPhones. Donc, c'était la majorité. Et le secteur le plus en croissance, c'est les services. Puis les services, mais sont liés aussi à la vente de produits. Et pendant ce temps-là, t'as l'iPad qui a une croissance différente. Pourquoi? Ou une nombre de ventes différente? Parce qu'une fois que t'as eu ton iPad, tu le renouvelles pas aussi vite que ton cellulaire parce que tu l'uses moins vite. Tu ne brûles pas la batterie. Tu l'échappes beaucoup moins par terre. Tu te le fais moins voler que dans un centre d'achat. Donc, ton iPad, il est moins renouvelable. Même chose pour ton ordinateur. Tandis que le téléphone portable, beaucoup d'utilisation, surutilisation de la batterie, faible batterie. Et il y a peut-être des gens qui ont opté vers d'autres modèles. Avec tout ce qui est arrivé avec les batteries d'Apple, peut-être qu'on a opté pour un téléphone qui était plus durable au niveau de la batterie. Et quand on regarde les états financiers, ben on se retrouve avec un trimestre, évidemment le dernier publié, à 53 milliards de revenus et 11 milliards à peu près, ou 10,7 milliards de bénéfices nets. Donc, c'est très rentable, mais on a besoin de la locomotive des téléphones. Donc là, si on dit qu'on va baisser, selon Wall Street Journal, la production ou la capacité de vente, c'est qu'on croit que le modèle a atteint sa limite ou qu'on n'est pas capable de le vendre à la même vitesse que les autres.
Et qu'ils vendent moins cher. C'est-à-dire qu'ils trouvent un modèle plus abordable.
Oui, en fait, c'est le modèle plus abordable existe, c'est les anciens modèles. Le problème, c'est que avec l'update, tu sais, avec l'ajout du nouvel OS, souvent, ça devient plus lent ou la batterie est moins rapide, tu sais, donc il y a un problème.
C'est l'obsolescence programmée.
Oui,
pour te faire changer.
Même moi, je suis obligé de changer tellement que le téléphone est plus bon des fois.
C'est vrai, ben le mien, c'était ça. J'avais un vieux, ben quand je dis ça, un vieux, ça fait pas si longtemps, un vieux 5S, il avance plus.
Le 5 fonctionnait très très bien, Paul.
Oui,
vraiment. Là.
Oui,
c'est le meilleur selon moi.
Après plusieurs années là, d'utilisation, il commençait à être beaucoup plus lent. Je l'ai remarqué.
Oui, c'était comme Internet en 97.
Exactement. On va regarder maintenant du côté de Metro qui vise une automatisation.
Oui, évidemment, c'est tout le temps lié au salaire minimum. On ne tape pas sur le salaire minimum, mais on comprend un peu. Tout est dans les états financiers, Paul. Les dirigeants de Metro, c'est des comptables, c'est des gestionnaires. Ils regardent les chiffres. Donc, ils se disent, OK. Dans le dernier trimestre, là, on a eu à peu près 1,3 milliard de bénéfices nets. Wow! Évidemment, là-dessus, il y avait 1,1 milliard qui était lié plus à la vente du placement dans Couche-Tard. Si on enlève ça, puis qu'on retourne aux bénéfices nets du trimestre de l'année passée équivalent, on est plus à peu près 138 millions de bénéfices nets. Mais quand on regarde la charge de la même année, donc le trimestre équivalent à l'an passé, des salaires, c'est 160 millions. Donc, comprendre que, oui, les salaires sont déductibles d'impôts, mais de comprendre que la charge de salaire, une variation influence beaucoup l'entreprise. Alors, elle a trois choix pour sa rentabilité. Soit elle coupe dans la qualité des produits, soit elle monte les prix, ou soit elle trouve une façon de s'organiser de meilleure façon. Donc, les deux premières, évidemment, question d'offre et de demande, c'est déjà relativement réglé. Alors, on se dit, OK, on va automatiser les caisses davantage. Parce qu'évidemment, les caisses n'ont pas d'avantages sociaux, les caisses automatiques. Les caisses automatiques ne tombent jamais en malade. Les caisses automatiques te permettent de contourner une certaine réglementation. Si tu as droit à un nombre limité d'employés, par exemple, dans une épicerie après tout à l'heure, ben la caisse, elle, c'est pas un employé. Et tu n'as pas à payer des charges sociales, imagine, de la CSST. La machine brise jamais au niveau de la santé.
Pas donc, besoin de vacances.
Pas d'avantages sociaux, pas de fonds de pension, on n'a pas d'avantages. T'sais, pas de team building. Donc, Paul, c'est ça, c'est que l'automatisation va remplacer l'humain et on commence à le voir de plus en plus dans nos épiceries et commerces de détail.
Et permets-moi une petite remarque. Je sais que je sors un peu de ta programmation aujourd'hui, mais mine de rien, le Dow Jones a perdu 362 points à New York. Écoute, c'est à peu près 700 à 800 points en 72 heures.
Mais évidemment, le Dow Jones est un indice qui est basé sur des actions qui sont unitaires, c'est-à-dire le prix unitaire de l'action et pas la capitalisation d'entreprise. Donc, dès que les gros joueurs varient un peu, comme des Apple de ce monde et
Je pense parce qu'il y avait une petite correction à venir, là.
Oui, mais évidemment, c'est une belle bulle depuis un an et demi, deux ans. Donc, évidemment, faut s'attendre à avoir de la volatilité, Paul.
Merci et à demain matin.
Salut.